Partie du Cap le 5 février 1691, l'Hirondelle traverse à la mi-mars sa plus violente tempête. Vent tournoyant, éclairs, vagues plus hautes que le navire, un furieux cyclone secoue et embrase l'oiseau de bois pendant plus de 10 heures, au comble desquelles un feu de Saint-Elme bleuâtre s'empare de la pointe du plus haut mât. Les dégâts matériels sont légion, et l'équipage, contraint durant l'orage à se réfugier dans ses cabines, en ressort en piteux état. Mais le calme revient. Un vent d'un métal moins sonore les porte plus avant, et le 3 avril, terre est en vue. Le gars veut croire que c'est l'île d'Éden. Ses nobles montagnes, ses rivages doux et verts, ses parfums de fleurs et d'agrumes séduisent les marins tant malmenés qui souhaitent tout naturellement y accoster, ce qui, au reste, constitue le but principal de leur mission. Le capitaine Valot, encore une fois, est d'un avis contraire. Il ne voit pas leur Éden dans cette île-ci, et achevant de mériter les noms de fourbe et de scélérat que le gars et les siens lui donnent en rageant, il refuse d'obéir aux ordres et profite de la mauvaise santé des troupes pour conduire seul et d'après son seul goût l'Hirondelle vers d'autres rives. On peut juger de notre surprise et de notre douleur, commentera plus tard le gars, chef malheureux, renonçant à regret au pays des délices, si près, et attendant de voir où le damné capitaine voudra bien les conduire. La première des 12 âmes du navire meurt alors, Jean Pagny, victime du scorbut et de ses tourments. Il a 31 ans. Mourir après 8 mois de voyage, à quelques encablures de l'île rêvée, dit terriblement combien il est vain d'espérer jamais arriver quelque part. Le plus souvent, le cheminement fait toute la vie. Le visage blême, puis jaune, le cœur lourd, Jean Pagny commence par cracher le sang que ses gencives enflées laissent s'écouler entre ses dents molles, et son dégoût de lui-même accroît très vite son envie d'abandon à la mort. Des petites plaques rouges apparaissent sur ses jambes, son corps gonfle de part en part, et son affaiblissement est bientôt extrême. Ses dernières paroles, chétives, sont employées à regretter qu'il n'y ait pas un docteur pour lui expliquer le sens de ses horribles douleurs, ni un pasteur pour lui assurer un meilleur sort posthume, ni une main de femme pour rafraîchir son front brûlant.